est 19h.
RTL Soir, édition spéciale.
Florence Cohen, Jérôme Chapuis.
Et nous poursuivons donc cette édition spéciale. Nous allons faire un point dans quelques secondes sur ces mouvements de panique qui se sont produits cette dernière demi-heure au cœur de Paris, notamment dans le premier arrondissement, mais aussi dans le quartier de la Gare de l'Est. Une auditrice nous disait avoir entendu des coups de feu. On ne sait pas pour le moment précisément ce qui s'est produit, mais l'un de nos envoyés spéciaux, Brice Dugénie, sera avec nous dans quelques instants. Il faut aussi parler ce soir, Florence, des derniers développements de l'enquête, car ils sont nombreux.
Qui avance à grands pas, effectivement, l'identification des terroristes, donc, avance puisque les enquêteurs sont sur la piste de deux frères, l'un qui s'est fait exploser avec les six autres assaillants et l'autre qui est dans la nature entre la France et la Belgique. C'est l'une des personnes qui a loué une voiture. Sa trace a été perdue. Voilà où on en est pour l'instant. Les interrogatoires se poursuivent en région parisienne et à Bruxelles, bien évidemment.
L'état d'urgence pourrait être prolongé de 3 mois. C'est en tout cas ce que François Hollande va demander demain aux parlementaires réunis en congrès. Les consultations se sont enchaînées toute l'après-midi à l'Élysée. Nous y serons dans ce journal.
RTL Soir, édition spéciale.
Florence Cohen, Jérôme Chapuis.
Et nous rejoignons tout de suite Brice Dugénie. Vous êtes, où êtes-vous d'ailleurs, Brice Dugénie, puisque c'est un peu la confusion ce soir dans Paris. Vous étiez il y a quelques instants avec nous pour nous faire part de scènes de panique auxquelles vous avez assisté.
Je peux vous dire que cela continue parce que je me trouve exactement à côté de l'hôtel de ville de Paris. Là, un camion de pompiers vient de passer, gyrophare, deux tons allumés. Un autre camion se trouve, semble-t-il, je suis un peu loin, il me semble que c'est un camion des forces de l'ordre ou des sapeurs-pompiers qui se trouve devant la rue des Archives, qui est la rue qui passe derrière l'hôtel de ville et qui se poursuit dans le marais. Des motards à l'instant de la police passent, gyrophare allumé. Le mouvement de panique est concerné. L'esplanade du musée Beaubourg, du musée Georges Pompidou, où les terrasses avaient été renversées, les verres cassés, les gens étaient retranchés et j'en faisais partie dans les restaurants. On est même descendu au sous-sol d'un restaurant, à l'instant, des policiers et gendarmes avec casques lourds extrêmement tendus. Certains ont même d'ailleurs presque insulté les gens pour qu'ils se mettent à l'abri parce qu'on les sent très tendus. Ils ont eux aussi peur, ça se lit sur leur visage. Tout à l'heure, je voyais passer des policiers, armes à la main, gilets pare-balles, et on pouvait voir dans leur regard qu'évidemment, ce n'était pas une journée normale, pas une intervention normale. Je suis en train de me rendre du côté de la rue des Archives où apparemment des policiers sont en train d'entrer. C'est évidemment très confus, hein. Comprenez que je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Je suis comme vous, je sais que voir ces choses-là...
Sachant que Brice, vous nous redites ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous, en l'état actuel des choses, vous n'êtes pas en état de nous dire que vous avez entendu des coups de feu.
Non, je n'ai entendu aucun coup de feu. Je n'ai eu que des témoignages, deux témoignages de personnes qui m'ont dit en avoir entendu. Mais vous savez, dans ce genre de mouvement, la rumeur, elle est un peu comme la panique. Elle est irrationnelle, déraisonnable et tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi. Donc il faut se méfier. En tout cas, il y avait une peur immense chez les gens. Et même lorsque les officiers de sécurité nous ont dit « vous pouvez y aller, vous pouvez ressortir », les gens se sont mis à courir. Et là encore, il y a un paradoxe total, c'est que des gens se promènent, téléphone à l'oreille, tranquillement, alors que des policiers leur demandent de continuer leur chemin, équipés de casques lourds et de gilets pare-balles. Donc on ne comprend pas très bien ce qui se passe, on sait juste qu'il se passe quelque chose, que cela fait peur à tout le monde, mais ça ne peut peut-être être qu'un vent de panique, finalement lié à pas grand-chose. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant.
Voilà, on rappelle qu'une auditrice d'RTL nous disait tout à l'heure avoir vu de ses yeux un homme avec un pistolet qui manifestement...
Elle l'a vu menaçait, charger son arme,
elle l'a vu charger son arme, exactement. On va
retrouver Sinamir, c'est ça, qui est rue des Archives, hein, pas très loin de là où vous trouviez. Brice, qu'est-ce qui se passe, vous, du côté de chez vous, Sina ?
Impossible forcément de confirmer l'information de cette auditrice pour le moment. Les policiers avec qui je m'entretenais il y a quelques minutes parlaient de suspicion de coup de feu et non pas de coup de feu. Suspicion, c'est ce qui aurait provoqué a priori ce mouvement de panique venu de la place de la République mitoyenne de ce quartier du Marais. Pour l'instant, en rue des Archives, les gens ressortent. Ils étaient jusqu'alors barricadés dans des restaurants, dans des magasins de vêtements. La police leur avait intimé l'ordre, comme disait Brice il y a quelques instants, de rentrer à l'intérieur et de se protéger. On vient de contrarier cet ordre et de dire aux gens qu'ils pouvaient ressortir. Un hélicoptère est pourtant toujours en vol stationnaire au-dessus du marais à faire des tours pour pouvoir essayer de repérer. On a vu beaucoup de policiers aussi s'agiter dans tous les sens sans se concentrer sur un seul périmètre, ce qui veut dire qu'ils cherchaient aussi également de quel côté auraient pu provenir ces détonations entendues par quelques témoins. Beaucoup ne les ont pas confirmées. Certains parlent de pétards ici, de gros pétards qui auraient pu être de même nature que ces détonations. Mais pour l'instant, beaucoup d'activités forcément policières et de pompiers qui cherchent en tout cas dans ce quartier à quadriller le secteur pour retrouver d'éventuelles personnes qui auraient pu être à l'origine de ces détonations.
Voilà, donc grande prudence hein, évidemment ce soir sur ce mouvement de panique, sur cette confusion qui règne dans plusieurs quartiers de Paris, puisqu'il y a eu aussi des scènes de panique rue de la place de la République. Nous allons à quelques centaines de mètres de la rue de Rivoli à Notre-Dame de Paris, puisqu'en ce moment même se déroule une cérémonie sous très haute protection policière. De très nombreuses personnalités sont réunies pour une messe en hommage aux victimes qui est célébrée depuis maintenant un peu plus d'une demi-heure. Gauthier Delambugard, vous êtes sur le parvis de Notre-Dame pour RTL. Est-ce que cette panique qu'on évoque depuis maintenant une petite demi-heure sur notre antenne, est-ce que cette panique, vous l'avez ressentie là où vous êtes ?
Eh bien, pas réellement. Les gens sont restés sur le parvis de Notre-Dame. Ils s'étaient recueillis déjà tout à l'heure avec le glas qui a sonné. On a tout de même vu beaucoup de véhicules de la protection civile de Paris passer devant nous. Beaucoup de pompiers, de policiers, gyrophares. Bien sûr, cet hélicoptère que l'on voit aussi de là où on est au-dessus de nous. Voilà. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que l'heure est toujours au recueillement. Les gens que je viens d'interviewer m'ont répondu de manière totalement normale. Normale, si on peut le dire, car j'ai pu rencontrer Laura qui est venue se recueillir, car hier, elle était au stade, vendredi soir, pardon, elle était au Stade de France. Elle a subi les événements. Il était important donc pour elle de venir ici.
J'ai commencé à prendre conscience de ce qui m'était arrivé aujourd'hui. Et j'ai vraiment compris aujourd'hui. Donc faire l'effort de venir et d'avoir les gens autour de soi, c'est important. Ensemble, ça va être plus facile.
Et parmi les fidèles, il y a aussi Jacqueline. Elle n'était pas au Stade de France hier, mais elle a tout de même vécu ces événements, car elle habite à Paris. Elle a donc voulu venir prier ce soir sur le parvis de Notre-Dame.
C'est très important aussi de prier et de penser vraiment à tous nos amis qui sont morts. C'est un grand désespoir. Et je prie vraiment pour la paix.
Voilà, la cérémonie est toujours en cours, hein, présidée par le cardinal André XXIII, l'archevêque de Paris. Des personnalités politiques sont bien sûr ici, Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, mais aussi Alain Juppé ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet.
Merci beaucoup Gauthier Delambugard en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors on va maintenant s'intéresser à nouveau aux dernières avancées de l'enquête, puisqu'il y en a ce soir, Damien Delceni. Les enquêteurs s'intéressent donc à deux frères, l'un qui est mort avec le reste des assaillants, l'autre vivant et dans la nature.
Oui, et on parlait beaucoup de rumeurs ces dernières minutes. Ça, par contre, c'est sûr. L'un des hommes les plus recherchés de France et peut-être d'Europe s'appelle donc Salah Abdeslam. C'est le frère d'un des kamikazes morts boulevard Voltaire vendredi soir à Paris, Brahim Abdeslam. Et Salah Abdeslam est soupçonné tout simplement d'avoir accompagné son frère dans les fusillades commises à Paris dans le 10e et le 11e arrondissement vendredi soir. Il était peut-être d'ailleurs même le conducteur de la fameuse Seat noire retrouvée à Montreuil. Salah Abdeslam, il a été récupéré par une équipe descendue de Bruxelles dans la nuit de vendredi à samedi. Des hommes qui sont donc considérés aussi comme des complices. C'est ce trio donc composé de deux hommes descendus de Bruxelles pour récupérer le terroriste, a été contrôlé, on le disait tout à l'heure, de manière assez discrète et en même temps assez surprenante au niveau de Cambrai samedi matin par des gendarmes. Les hommes sont repartis, tous les trois, ils sont rentrés en Belgique apparemment. Et en Belgique, l'après-midi, lorsque les policiers ont voulu interpeller cette équipe, eh bien Salah Abdeslam avait disparu. Ses deux complices sont donc eux en garde à vue depuis hier. Un autre frère Abdeslam qui était lui resté en Belgique et figure également au nombre des gardés à vue. En revanche, on vient de le dire, Salah Abdeslam, qui est donc considéré comme le huitième homme, celui qu'on cherche depuis 24 heures, puisque vous savez, depuis 24 heures, le procureur François Molins l'avait rappelé, il y avait 7 terroristes identifiés, il en manquait donc un. Eh bien, c'est lui, Salah Abdeslam, 26 ans, un Français qui résidait en Belgique depuis plusieurs années. Il est dans la nature à l'heure actuelle. Un appel à témoins a été lancé par la police française. Un mandat d'arrêt international a lui été lancé par la Belgique. La traque est en cours. On ne sait absolument pas où il peut se trouver pour le moment.
Damien Delceni, nous étions à Notre-Dame il y a quelques instants pour la cérémonie, journée de deuil national, trois journées, puisque ça ira jusqu'à mercredi. Certaines familles sont aux côtés des personnes qui ont perdu les leurs, d'autres pansent les plaies des blessés et ils sont nombreux. C'est le cas notamment de Nicole qui a passé la journée aux côtés de sa fille qui a été grièvement blessée au bar Le Carillon vendredi soir, une balle dans chaque jambe. Je vous propose d'écouter le témoignage de Nicole recueilli il y a quelques heures par Edmé Citroën pour RTL.
Elle est sans cesse en train de nous refaire le fil de l'histoire, elle nous raconte tout et c'est vrai que oui, elle raconte, elle tout. Elle essaye de constamment nous dire. Elle reprend tout le fil, elle nous raconte, mais elle est extrêmement... Elle a du mal, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes décédées autour d'elle. Et elle est à l'intérieur, mais ce sont les vitres qui ont... Ils sont tirés à travers les vitres. Et elle a deux blessures. Elle a des blessures par balle dans les jambes. Et donc, fracture ouverte d'un côté, puis de l'autre jambe, une plaie béante, quoi. Enfin, elle a été opérée hier, tout s'est bien passé. Donc, voilà. En plus, elle était à l'étranger. Elle est arrivée le jour même. Elle venait... trouver des amis comme ça pour voilà, mais bon, elle s'en sort bien. Je pense beaucoup à tous ceux, toutes les familles qui n'ont pas notre chance.
Voilà, ce témoignage recueilli pour RTL par Edmé Citroën. Sachez par ailleurs que François Hollande, donc aujourd'hui, a reçu les différents chefs de parti et les responsables des groupes parlementaires. Il s'exprimera demain devant le Congrès, c'est-à-dire le Parlement réuni dans son ensemble à Versailles. Mais d'ores et déjà, une première annonce. François Hollande veut modifier la loi de 1955, celle qui donne les règles de l'état d'urgence. Pour l'instant, cet état d'urgence peut durer 12 jours, dure 12 jours. Il voudrait, François Hollande, porter cette durée à 3 mois. Voilà donc la première mesure qui est annoncée.
La France est en deuil, mais la vie doit reprendre. Demain, lundi, les écoles seront ouvertes. On va y revenir dans quelques minutes avec un enseignant et un représentant de la FCPE, Fédération de parents d'élèves. Il faut bien sûr parler de l'ambiance dans les rues de la capitale. On en parlait il y a quelques instants avec ces mouvements de panique. On n'a pas pour le moment de confirmation. Hein. On ne sait pas encore. On est en train de vérifier s'il s'agit d'une fausse alerte. En tout cas, ça en dit long sur l'atmosphère qui règne en ce moment dans la capitale. Et je me tourne vers vous, Martial Liu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le chef du service économique d'RTL. Parce que tout ce que l'on voit encore il y a quelques minutes dans Paris, ça a forcément des conséquences sur notre économie et notamment sur la consommation.
Oui, vous avez traditionnellement une chute de la fréquentation des magasins, une baisse de la consommation lors de ce genre d'événements. Et c'est un phénomène qui dure en général 3-4 jours, le temps que les gens reprennent leurs habitudes. Mais c'est jamais sans conséquence sur l'économie. En janvier dernier, par exemple, le trafic sur les sites marchands sur Internet avait chuté jusqu'à 20% le soir des attentats contre Charlie. Les soldes avaient connu une baisse de quasiment 4% en moyenne et ne s'étaient jamais vraiment remis en fait du drame. Côté restaurant, dans la capitale, les chiffres dont on dispose pour l'instant ce soir, eh bien, c'est qu'on a constaté une chute de 50% du chiffre d'affaires selon les premiers éléments que nous avons récupérés auprès des organisations professionnelles. 50% depuis hier. Donc, il faut se rappeler qu'en janvier, la fréquentation dans les restaurants avait chuté de 11% et que les grands hôtels de la capitale avaient vu leurs réservations s'effondrer de 60% pendant un mois.
Martial Liu, une question de plus. Christian Jacob, qui était tout à l'heure dans ce studio pour Les Républicains, disait qu'il faut mettre plus de moyens dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il va y avoir des modifications du budget? Est-ce que la France a les moyens de sa guerre contre le terrorisme?
Là encore, il faut se rappeler de ce qui a été annoncé juste après les attentats contre Charlie Hebdo. Il y avait eu un plan de 420 millions sur 3 ans annoncé par Manuel Valls, notamment pour financer l'achat de matériel pour les forces de l'ordre, des gilets pare-balles, des armes pour payer les heures supplémentaires et les frais de mission. 420 millions sur 3 ans, ça veut dire 140 millions à peu près par an. On est dans ce plan et ça va durer. Du côté de Bercy et du côté de l'Élysée, on m'assure ce soir que de toute façon, quoi qu'il arrive, si on devait mettre au bout de ces 420 millions, rajouter encore un budget supplémentaire pour financer la lutte contre le risque terroriste, eh bien, ce budget existe. Il existe pour le budget actuel, c'est-à-dire pour les finances actuelles, c'est-à-dire qu'on irait piocher dans ce qu'on appelle la cagnotte, la réserve de l'État, c'est 6 milliards à peu près, qui sont justement prévus pour les cas de force majeure et les paiements imprévus. Et puis, il y a également les économies sur le dos des autres ministères qui peuvent servir à financer un budget supplémentaire pour lutter contre le terrorisme.
Merci beaucoup Martial Liu pour ces précisions économiques. Alors on va revenir à ce dont on vous parlait tout à l'heure, cette possible fausse alerte, ces tirs entendus par des témoins. Sachez que la place de la République se remplit à nouveau progressivement en plein cœur de Paris. On a eu deux témoins en ligne qui nous ont dit tout à l'heure avoir entendu des coups de feu, ce que nos reporters n'étaient pas en état de confirmer. Jean-Alphonse Richard, qu'est-ce que l'on sait à cette minute?
Ben écoutez, je vous donne la voix de ce qui nous revient de la part du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police de Paris, savoir qu'il n'y a pas de de confirmation, à l'heure à laquelle nous parlons, de confirmation de coup de feu. Une ampoule aurait explosé place de la République, avec un bruit assez important qui aurait créé un mouvement de panique, panique qui s'est répandue ensuite dans plusieurs rues apparemment de Paris, puisque des terrasses de café se sont vidées instantanément. Donc pour l'instant, à l'heure à laquelle nous parlons, il y a des vérifications qui sont en cours, évidemment, les policiers sont très attentifs à ce qui peut se passer, mais il n'y a pas de confirmation de coups de feu, d'échange de coups de feu dans Paris. On rappelle peut-être très brièvement les consignes de la préfecture de police. Hein. Nous sommes en état d'urgence actuellement dans toute la France, et les Parisiens doivent éviter de sortir s'ils n'ont rien à faire en dehors de chez eux. Voilà, c'est des consignes toutes simples, mais qu'il faut respecter parce que le climat, effectivement, en ce moment, est extrêmement tendu.
Merci Jean-Alphonse
Richard. Merci Jean-Alphonse Richard. On va revenir bien sûr dans quelques instants à cette édition spéciale. Je vous redonne une des informations de ce week-end, cet accident ferroviaire en Alsace qui a fait 11 morts selon un dernier bilan, et une toute dernière information du parquet, de la justice, qui indique que la motrice du TGV a percuté un pont avant de dérailler. Voilà un tout premier élément sur cette enquête sur le déraillement de ce train en Alsace. Jean-Alphonse Richard, à l'instant, une dernière information.
Toute petite précision sur le mouvement de panique qui a eu lieu et dont nous parlions il y a simplement une minute. C'est bien la lampe d'un bar, comme nous indiquons, qui a éclaté place de la République, et effectivement un policier a sorti une arme à ce moment-là, par pur réflexe, ce qui explique le témoignage que nous avons eu sur l'antenne tout à l'heure, avec une dame qui disait effectivement avoir vu quelqu'un avec une arme. Voilà le pourquoi du comment, comme quoi les choses vont parfois très vite.
Le puzzle semble effectivement s'être reconstitué. Merci beaucoup Jean-Alphonse Richard. On va se retrouver dans un petit instant pour la suite de cette édition spéciale. On va s'intéresser aux écoles qui vont rouvrir demain à Paris. Qu'est-ce que les enseignants vont pouvoir dire à leurs élèves, comment ils vont pouvoir leur parler de ces attentats et comment les élèves vont-ils réagir? À tout de suite.